Hello et bienvenue sur Entreprendre dans la Santé, le podcast qui a pour but de t'inspirer et de t'en apprendre plus sur l'entrepreneuriat dans la santé à travers le parcours de celles et ceux qui ont sauté le pas. Chaque discussion te permettra de tirer des choses concrètes et applicables de leurs réussites et erreurs, leurs stratégies et insights. Je suis Jean-Baptiste Michel, passionné d'entrepreneuriat et étudiant en master en management de la santé et data intelligence, et je te souhaite un bon épisode. Dans cet épisode d'Entreprendre dans la Santé, j'ai discuté avec Antoine Jomier, le cofondateur et CEO d'Incepto. Son entreprise innovante co-crée et distribue des applications d'IA pour l'imagerie médicale. Des apprentissages de sa carrière côté produit, puis en vente dans l'imagerie médicale chez GE Healthcare, jusqu'à son tour du monde à la voile en famille, à l'origine d'Incepto, Antoine nous partage les différentes étapes clés l'ayant poussé à entreprendre dans la santé. Dans cet épisode, Antoine nous explique qu'est-ce qu'une carrière dans la vente apporte quand on entreprend dans la santé. Comment trouver les compétences nécessaires à son projet en s'entourant de la meilleure manière. Pourquoi et comment développer un business model hybride à la Netflix de distribution et co-création d'applications d'IA en santé. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Entreprendre dans la santé. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Jomier, le CEO et cofondateur d'Incepto. Salut Antoine, ça va ?
Salut Jean-Baptiste, ça va très bien. Merci de m'avoir invité. Je suis content de pouvoir échanger avec toi ce soir.
Avec plaisir, avec plaisir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Aujourd'hui, du coup, sur ce podcast, on va parler donc de ton expérience dans la santé, de l'intérêt pour ce secteur, comment cet intérêt t'est venu et comment, de fil en aiguille, tu en es venu à entreprendre dans la santé avec Incepto. Et voilà, on va en apprendre plus sur toi, sur vraiment les challenges que tu rencontres et ce que tu mets en place pour les surmonter. C'est parti ?
Parti, ouais. Allons-y.
Bah écoute, je te laisse te présenter. J'aimerais que tu commences du coup par vraiment les bases. Qui es-tu et dans quel environnement as-tu grandi ? Donc vraiment au tout début, pour savoir un petit peu comment cet intérêt pour le secteur de la santé t'est venu. Est-ce que c'est de la famille ? Est-ce que c'est toi, ta curiosité personnelle ? Voilà, je te laisse nous donner des éléments pour apprendre à te connaître.
Eh bien, écoute, moi, donc je m'appelle Antoine Jomier, j'ai 42 ans, très prochainement 43. Et j'ai grandi en région parisienne et à Londres, où j'ai fini mes études secondaires et passé mon bac. Et ensuite, j'ai fait des études supérieures, classe préparatoire et école d'ingénieur. Je suis ingénieur, je fais l'école des ponts et chaussées. Et ouais. J'ai, dans mon entourage, pas vraiment de médecin. J'avais pas dans toutes mes études jusqu'à mes études supérieures, pas vraiment connaissance ni du domaine de la santé, ni du domaine de la... J'ai jamais vraiment eu envie de faire médecine. Et je connaissais pas bien le domaine industriel aussi de la santé, que ce soit la pharma ou medtech. Voilà.
Donc, tu fais durer le suspense, là.
et je me retrouve à chercher mon premier... Par contre, il y avait la vocation entrepreneuriale, elle était présente très tôt. Enfin, je suis quelqu'un de...
Ah ouais.
Je suis un homme de projet. J'adore découvrir des choses et entreprendre. Et donc, en tant qu'étudiant, j'étais très actif dans les associations. J'ai fait plusieurs fois le tour de France à la voile en montant des projets avec une association qui s'appelait la Ligue française contre la sclérose en plaques. Ouais. J'ai fait beaucoup de voyages et à la sortie de l'école, j'avais très envie de créer une boîte. Et donc, mon projet de fin d'études, c'était un premier projet entrepreneurial, mais qui n'était pas dans le monde de la santé. Et sur lequel j'ai pas été jusqu'au bout parce qu'on n'a pas créé l'entité légale. Et donc, je me retrouve à chercher mon premier job et je débarque chez General Electric.
Okay. Juste pour revenir sur ce projet entrepreneurial, du coup, c'était quoi un petit peu la branche c'était quoi donc tes passions à l'époque ou je sais pas s'il y avait une industrie qui t'intéressait en particulier
Donc, j'avais pas d'intérêt par vertical industriel, mais j'avais un intérêt pour tout ce qui était digital, start-up. Et donc, on est en 2001. Et donc, ouais. C'est la première vague des start-up. Et là, le projet, c'était de monter une place de marché pour aider les établissements scolaires à mieux acheter. Et donc, mettre en relation acheteurs et fournisseurs dans le domaine de l'éducation. Ça s'appelait Éducachat. Et on était un gars domaine de l'éducation et trois ingénieurs, deux amis de centrale et moi. Et on a fait le projet pendant 6 mois. Alors, on n'était pas du tout vendeurs. En fait, c'est ce que j'ai appris dans ce projet, c'est que j'allais voir tout le monde, c'est un super projet. Et je leur dis, ok, c'est super. Et puis, mais ça embrayait pas. Et j'ai bien senti que il manquait quelque chose. Et c'est là que j'ai découvert l'importance de la compétence commerciale quand on monte une structure. Et ça a eu pas mal d'influence sur mon parcours après.
Ben, c'est intéressant que tu partages ça parce que je pense que tous ces projets qu'on peut avoir quand on est étudiant, et moi je le dis en étant étudiant moi-même, on apprend tellement et tu vois là ce que tu en as retenu. Bon, on va voir après dans ton parcours, je ne veux pas spoiler, mais je sais que tu n'as pas entrepris tout de suite et finalement tu l'as retenu pour la suite, pour le futur. Et ça va être intéressant donc de voir comment tu l'appliques maintenant avec Incepto. Comment tu as appris et comment tu as transformé cette expérience. On va peut-être pas dire que c'est un échec, du coup, vu que tu en as appris quelque chose, mais cette expérience qui n'a pas abouti pour après, pour ton aventure entrepreneuriale. Et
Ouais.
donc, tu as ce premier job chez General Electric. Dans quel contexte c'était un stage ou directement un CDI?
Je fais un stage et puis avant le projet de création d'entreprise dont je t'ai parlé. Et puis après, je reste en contact avec eux. Ça avait bien fonctionné. J'aimais bien la culture de la boîte. À 2001, General Electric, c'est l'équivalent de Google aujourd'hui. Hein.
Ouais.
C'est l'icône en termes de management. C'est des verticales industrielles très fortes dans la santé, dans l'aéronautique, dans l'énergie, dans la finance. Et donc, je rejoins cette boîte plus pour rejoindre la boîte. Hein. Et je suis sur un projet, comme toutes ces grosses boîtes, grosses initiatives. Et l'idée, c'est de passer de la commande de la commande client à la facturation sans aucun papier. Et je me dis, tiens, ça c'est pas complètement de l'entrepreneuriat, mais ça m'a l'air très entreprenant. C'est en interne dans une boîte qui me fait un peu rêver. Et donc j'ai rejoint la boîte. Après, je me suis retrouvé en fait dans ce premier job à implémenter Oracle, donc un
D'accord.
ERP
Ouais.
dans la branche santé. Donc c'était un super gros projet, 50 millions de budget, une équipe de 130 personnes dans le monde entier. Et alors
Alors
c'était vraiment loin du client.
pour ceux qui connaissent pas, parce que du coup, faut va définir quelques termes. Un ERP, c'est un gros logiciel qui permet de gérer son inventaire. Et
Ouais.
donc c'est un énorme projet de transformation digitale, du coup.
Et
Et
ouais.
toi, c'était ton premier job.
Mon premier job, mais c'est pas des projets très sexy aussi, parce
Ouais,
que
non.
les ERP c'était quand même assez figé, c'est pas très agile, tu mets des modules, donc c'est vraiment de la grosse conduite de gestion de projet.
Ouais.
Mais au bout d'un an et demi, je vois bien qu'il manque tout l'aspect. Client, innovation et cœur de métier. Enfin, j'étais pas
Ouais,
dans le
parce
cœur.
que là, t'étais que en interne.
Ouais, j'étais qu'en interne. Et donc, mais par contre, je suis dans la branche santé de GE.
OK.
Et là, je fais le tour des popotes, des managers pour aller chercher un job qui est en interface entre le marché et l'innovation. Donc, je veux faire du product management. Et je me dis, soit je vais le faire j'adore la navigation en mer. Donc, soit je le fais dans les GPS, et là, je fais toute une veille et un audit sur ce secteur-là. Et puis, je vais voir tous les managers des différentes
Ouais.
de. Et puis, je tombe sur une rencontre qui va façonner toute ma carrière. Il y a un des managers qui s'appelle Jean-Michel Malbranque, qui est patron du scanner Europe à l'époque. Il me dit, tiens, ça m'intéresse ta démarche, restons en contact. Puis, donc, tous les mois, je le rappelais. Et puis 4 mois plus tard, il me dit, ah, j'ai un job de chef de produit dans mon équipe. Il animait l'équipe marketing et vente pour les scanners en Europe. Il dit, j'ai un job pour chef de produit dans mon équipe scanner. Est-ce que tu veux nous rejoindre? Et donc j'ai rejoint. Et là, c'est vraiment 3 ans, ce job, c'est vraiment une découverte, quoi. Je découvre ce domaine de l'imagerie médicale, de la santé, et je suis complètement passionné. Passionné par les rencontres que je fais avec beaucoup de radiologues qui sont hyper impliqués dans les développements technologiques. On est au début des scanners, ce qu'on appelle les scanners multicoupes, c'est les scanners volumiques. Donc, ils
OK.
commencent à faire les premières images du cœur en temps réel. Et il y a quelques radiologues, dont un radiologue s'appelle Jean-Louis Sablérolle à Saint-Denis. Il passe ses journées, ses soirées, ses week-ends à travailler sur les logiciels de reconstruction 3D pour revoir les coronaires. Il est la référence mondiale de cette technologie pour GE en Europe, dans le monde. Et là aussi, je développe une relation très, très forte avec lui, toute son équipe, et avec quelques leaders d'opinion dans le domaine. Et là, j'ai piqué par le virus, quoi.
Ouais, et puis ça devait être super satisfaisant. Enfin, en fait, je comprends énormément ce que tu racontes. J'ai eu ma première expérience pro dans l'imagerie dans le dentaire, du coup. Et c'est vrai que c'est passionnant de parler avec donc ces docteurs qui sont eux fascinés par ces nouvelles technologies que tu développes. Et toi, donc c'était ta première expérience où tu avais une relation vraiment avec le client. Et donc, concrètement, c'était quoi tes challenges, toi, parce que tu n'avais jamais eu de job en tant que manager produit, où tu étais en charge de travailler avec les clients, avec les équipes en interne. C'était quoi vraiment pour toi les points sur lesquels tu devais travailler pour être un bon chef de produit? Je sais pas si on peut dire chef de produit, ou tout le monde utilise maintenant product manager ou product owner, mais... c'était quoi ton expérience, toi?
Bah, les challenges sur le papier, ils étaient énormes, hein, parce que et je reviendrai sur le rôle de Jean-Michel, parce que c'est un ami, ouais. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui membre du conseil d'administration de Incepto.
Ok, complètement.
Qui était pendant 8 ans aussi patron Europe de General Electric, directeur de l'hôpital Marine Anne Long. Enfin, donc c'est quelqu'un qui m'a accompagné pendant les 20 dernières années, et ça part de de la confiance qu'il m'a faite. Et donc la confiance, il mise sur un jeune, mais moi j'y connais rien. Ouais. Et en tant que chef de produit, bah, je suis censé former les vendeurs partout en Europe sur la nouvelle technologie, mais j'y connais rien à la technologie. Et tous ces vendeurs, ils ont généralement entre 40 et 50 ans, c'est tous des anciens manipulateurs radio ou des...
Ouais, ils ont vu la transformation arriver en plus.
Non, mais, et donc les gars, ils y connaissent 100 fois plus que moi. Ouais. Ensuite, j'y connais rien en médecine, donc j'ai toute l'anatomie à découvrir. Donc je connais pas grand chose aux technologies, pas grand chose aux médecines, bref. Mais en fait, j'étais sur le terrain, j'étais en immersion, je me suis passionné pour ce domaine, et les gens, ils ont senti cette passion. Hein, les médecins avec qui je bossais, ils ont senti que je m'intéressais, et j'étais en fait une éponge. Donc je prenais des infos à un endroit, je les passais à d'autres, je faisais circuler l'info entre les équipes de vente, je récupérais des bonnes recettes. Dans l'équipe française que j'allais amener en Italie, je faisais l'inverse, que je passais en Angleterre, et puis avec les sites partenaires avec lesquels on travaillait, comme leur retour sur les produits, j'étais super proche d'eux, j'allais les voir régulièrement, ils me demandaient des services, je me battais pour les mettre en œuvre, et puis petit à petit, tu te fais vraiment adopter par les équipes, et puis tu gagnes confiance, et du coup, on élargit un peu tes responsabilités. Et puis, avec ces scanners volumiques, on est en fait sur la première génération de logiciels d'aide au diagnostic. Donc, on est déjà beaucoup sur des softwares du digital qui devient essentiel dans la revue d'image pour pouvoir mieux partager les informations, me cibler, aider au diagnostic. Et là, j'adore ce domaine, et je me spécialise dans tout ce qui est logiciel de traitement d'image et aide au diagnostic.
Okay.
J'ai 3 ans, et après aussi j'adore, je vois bien que ce business de grosses machines en imagerie médicale, le marketing, c'est super intéressant, de ce rôle de chef de produit, de passerelle entre les ventes et l'ingénierie, mais je vois aussi que le rôle du commercial est vachement intéressant dans la conduite des projets. Et en fait, je me dis, et puis j'ai retenu cette leçon là de mon premier projet entrepreneurial, où tu te rappelles, je t'ai dit, ouais, il me manquait un vendeur.
Ouais, il te manquait ça. Ouais.
Pour entreprendre, faut être le premier, faut être vendeur. Et je me dis, je suis ingénieur, mais allez, je me lance, je vais aller faire de la vente. Et là, je bascule dans l'équipe commerciale et je suis vendeur terrain. Je suis en charge des ventes de scanners pour le compte APHP.
Ouais.
Et en fait, c'est un prolongement de mon métier, hein. C'est-à-dire que j'ai une spécialité produit dans mon job de commercial, et donc j'apporte l'expertise produit au directeur de compte.
Ouais, et ça, je pense que c'est plus facilement réalisable dans des boîtes à forte dominante dans l'industrie comme ça, où tu as besoin d'avoir quelqu'un qui a une grosse connaissance produit derrière les forces de vente. Et je pense que ça a dû jouer énormément parce que quand tu le décris, on a l'impression que c'est super simple de passer de chef de produit à commercial. Alors qu'en fait, c'est un autre. Enfin, il y a une autre casquette quand même à avoir. Toi, est-ce que tu l'as ressenti et comment tu as fait ce changement justement? Est-ce que tu as dû aller chercher des compétences spécifiques au métier de commercial?
Ben, je les ai appris sur le terrain, mais encore, j'ai fait d'autres rencontres qui ont été clés. J'ai eu des super coachs commerciaux. J'ai vu l'importance du relationnel, de la confiance, de la compréhension, l'empathie pour aller rentrer dans les problématiques d'un client, comprendre ses enjeux, que finalement tout ce qui est aspect spécification produit, c'est essentiel mais secondaire. Et donc comment jouer, comment avancer les arguments produits, mais les remettre en relief de besoins clients. J'ai découvert tout ça, cette vente B2B. Et ça, c'était une deuxième, je dirais que en chef de produit, il y a la vocation vraiment du domaine de la santé et plus spécifiquement du domaine de la technologie de santé en imagerie. Et puis après, c'est le job de vente. Enfin, ça aussi, c'est une révélation.
Okay.
Pour toute la composante de la dynamique d'un deal, les non-dits, les dynamiques de décision, c'est des trucs que j'adore. Ça fait un peu écho aussi à mon esprit de compétition, de sportif. Et donc, je me suis éclaté dans ce rôle-là. Et du coup, en fait, après, de fil en aiguille, on m'a affilié à... Il est confié assez vite des responsabilités. Je suis devenu patron de l'équipe Scanner en France et en Belgique.
De l'équipe commerciale, du coup.
L'équipe commerciale,
l'équipe de vente, ouais.
C'est une assez grosse équipe. Je pense que c'était un business qui devait faire déjà peut-être 50, 60 millions par an et qui était un peu le business phare de GE. Donc, j'ai un peu pris la marée et la pression au début, mais j'avais beaucoup de plaisir aussi à animer cette équipe. Là, il y avait une grosse dizaine de personnes. Mmh. On s'est vraiment beaucoup amusé, pris beaucoup de plaisir. Ça a bien marché.
Tu passes d'un gros compte qui est la PHP à directement toute la France, là. Il n'y a pas d'intermédiaire entre les deux. Et à la Belgique, en plus.
Ouais. Et Belgique.
Okay. C'est une grosse marche pour toi?
C'est une grosse marche. Mais ça se passe bien. Et puis, j'ai toujours cette idée d'entreprendre, toujours en veille. Je reste quand même toujours un peu chef de produit. C'est-à-dire que je suis un bon directeur commercial parce que j'arrive à bien mettre en lumière et mettre en relief l'innovation. J'ai gardé ces relations avec les clients clés, avec qui je construis la stratégie. J'arrive à comprendre les tendances du marché. Et il y a une tendance très forte du marché, en 2011, qui émerge. Sur les nouvelles techniques de reconstruction pour réduire les doses en scanner. Ça, c'est anecdotique. Mais par contre, ce qui est moins, c'est que je repère une start-up en France à Strasbourg, montée par un physicien médical, qui permet pour la première fois de collecter les doses de rayons X envoyées aux patients. Et de collecter les doses et d'envoyer des alertes si ces doses sont supérieures à les normes recommandées. Ou d'envoyer des alertes si les doses arrivent à des seuils où il va y avoir des problèmes pour les patients. Or, pile à ce moment-là, au niveau industriel, donc l'innovation majeure, c'est des techniques pour réduire, garder la même qualité d'image en réduisant les doses.
Le low dose,
voilà. Et il y a des accidents aux États-Unis, notamment un à l'hôpital de Los Angeles à Cedars-Sinai, où il y a une vidéo sur YouTube qui commence à tourner, et qui est sur NBC, où il y a un gars qui a 4 cm de cheveux complètement chauve sur 4 cm, parce qu'il a été gridé. Et du coup, c'est une énorme problématique industrielle, ces problèmes de dose, et il y a cette start-up qui a cette techno.
Et là, je me pose la question de, en fait... parce que c'est les gros industriels donc doivent mal le voir de voir une start-up comme ça qui progresse, parce que ça veut dire que il y a un besoin, ça veut dire qu'il y a des erreurs qui sont commises, et la start-up, du coup, elle bossait pour qui?
Non, la start-up, elle est autonome, et les gros industriels, bon, bah moi je représente le gros industriel, hein, et au contraire, je le vois très différemment, je le vois comme une super opportunité de venir objectiver ce qu'apporte la technologie et de faire un constat mesuré de sans la technologie et avec la technologie. Et en fait, j'essaye de pousser un bonus-malus vis-à-vis de l'assurance maladie pour que les clients qui investissent dans cette technologie, ils fassent un audit avant-après grâce à cette technologie de mesure de dose et qu'on puisse donner un incentive aux clients qui utilisent ça. De fil en aiguille, en fait, on présente cette techno à des gros clients aux États-Unis. Ça remonte très vite au big boss de la branche santé, qui décide de les racheter.
Okay.
Alors que moi, j'étais en train de discuter avec eux pour les rejoindre. Il y a toujours mon patron fétiche, enfin, dont je suis proche, qui, dans le process, ça c'est des longs process quand même, ça dure 6 à 9 mois. Au bout de 6 mois, il vient me voir et il fait « Antoine, je comprends pas pourquoi c'est pas toi qui discute avec les gars de Strasbourg, c'est toi qui les connais le mieux. Et, on est en train de monter à deal avec eux, je comprends pas pourquoi t'es pas dedans. Tu peux m'en parler un peu ?» Je dis « Bah, ouais, ça tombe bien que tu m'en parles, mais en fait, je suis en train de discuter pour partir chez eux. »
Et il
je savais qu'il fallait que je t'en parle.
Ouais.
Et puis, de fil en aiguille, en fait, c'est remonté encore plus haut chez Generactric et après, la société a décidé de les racheter. Et donc, Jean-Michel m'a demandé de mener l'acquisition de cette startup. C'était une jeune startup, hein, elle n'avait même pas un an. Il y avait 3 personnes et ils ont été rachetés par GE, la techno.
Énorme truc pour eux.
Donc, moi, je fais l'acquisition et ensuite, je deviens patron de cette nouvelle entité qui est, où il y a 3 personnes, mais tout de suite, on décide de mettre un gros budget pour... diffuser cette technologie à travers tous les États-Unis et toute l'Europe. Et donc, ça, c'est mon un autre job, une nouvelle évolution chez GE, où je redeviens intrapreneur avec une start-up interne à protéger du gros groupe pour garder cette culture un peu de...
Et donc là t'avais vraiment ce côté entrepreneuriat qui était, enfin, tu devais être super content de... enfin pouvoir avoir un peu ton protégé, ta start-up, ton projet, enfin, même si c'est pas toi qui l'as monté dès le tout début, ça devait être assez excitant pour toi.
Ouais, exactement, donc ça cochait plein de cases, je me suis, c'est de 2011 à 2014, et je me suis vraiment éclaté. D'ailleurs aujourd'hui, dans l'équipe est à Strasbourg, là on est 9 ans après, il y a 100 personnes qui travaillent.
C'est énorme, ouais.
Et ils font tout ce qui est en fait, c'est l'IoT des machines d'imagerie médicale. C'est-à-dire que tout ce qui est monitoring des data, collecte de données sur les machines, est développé par cette équipe à Strasbourg.
Ok, très bien. Ouais. Super. Et donc, jusqu'à 2014, tu fais ça. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? Pour en arriver un peu plus rapidement à Incepto, toi, comment tu es progressivement arrivé à ce moment où tu t'es dit, ok, maintenant, il est temps que je me lance. Parce que même si je sais que c'est assez récent, la création de l'entité juridique d'Incepto, donc de 2018, comment cette idée est née et qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de te lancer, toi?
Ouais. Alors, en fait, je suis quand même obligé de te raconter des étapes intermédiaires parce qu'elles sont fondatrices.
Vas-y.
Mais je vais y aller vite. 2014, le fondateur de la startup qu'on avait racheté, je vois ce que c'est aussi qu'un fondateur qui vend sa boîte, etc. Moi, j'étais vraiment au début, mais je me dis, mais 2014, j'avais fait le tour, je décide de faire une année sabbatique, en fait. Et donc, je pars un an avec ma famille, j'ai 4 garçons, et donc avec ma femme et mes enfants, je pars en bateau pendant un an. Je prépare le truc, décide 18 mois à l'avance, mais l'été 2014, je pars un an autour de l'Atlantique en bateau avec ma famille. Parce que les carrières sont longues, parce que j'avais quand même beaucoup donné dans ces jobs, et puis je me dis que comme les carrières sont longues, il faut faire des breaks de temps en temps, c'était un rêve, si on le fait pas, on le fera jamais, etc. Donc j'y vais, et c'est un voyage extraordinaire. Et on fait un an de voyage. Et quand je reviens, je retourne chez GE et je suis patron de l'activité imagerie en France. Mais par contre, j'ai écrit pendant mon voyage, quand tu fais une année sabbatique, tu as beaucoup de temps, du temps où tu peux tendre, tu vois plein de trucs sympas, mais tu as aussi des temps où tu t'ennuies. Donc, tu as beaucoup de temps pour réfléchir. dormir, notamment quand tu traverses l'Atlantique, les quarts de nuit, etc. Et donc, j'avais noté toute une série de choses. D'autres des choses que j'avais notées, c'était entreprendre dans la santé. J'ai les épaules maintenant prêtes pour porter un projet, fédérer une équipe et fédérer des investisseurs autour de projets innovants dans le domaine de la santé. Et donc, je reviens avec cette idée en tête. Et mon projet, c'est soit de reprendre une PME dans le cadre d'un... avec un fonds pour accélérer le développement d'une PME, soit de monter une start-up. Et donc, je fais ça en parallèle de mon job, de la veille, des rencontres, du networking. Et en 2016, j'ai un radiologue dont je suis proche, qui m'interpelle et qui me dit « Antoine, il y a ces sujets d'intelligence artificielle qui arrivent et qui émergent. Très sincèrement, si en tant que radiologue, on ne comprend pas ce qui se passe et on ne s'en saisit pas, dans 10 ans, on n'a plus de job. » Francis me dit, je suis très proche de Gérard Berry, qui est en charge de la chaire algorithme et informatique au Collège de France. Gérard Berry connaît tout le monde à l'INRIA, tout le monde dans le milieu de l'intelligence artificielle, et est proche de Yann Lequin. Il faut qu'on, tous les trois, on organise un colloque avec pour objectif de faire se rencontrer les médecins, les radiologues et les spécialistes de l'IA, pour qu'on comprenne et on voit comment ça va impacter notre sujet. Et on démarre ça en 2016. Du coup, on monte une petite équipe de comité de programme. On fait venir quelques radiologues, quelques patrons des équipes de recherche de l'INRIA. Et le colloque a lieu le 2 mai 2018, mais à l'été 2017, dans ce cadre-là, je me dis ce sujet est suffisamment profond, pertinent. Il y a des projets qui ont démarré aux États-Unis, en Israël, en Chine, mais il n'y a pas grand-chose encore en France. Je sors de GE, je monte quelque chose autour de l'intelligence artificielle et l'imagerie. Et j'avais rencontré Gaspard, qui est un radiologue, qui a mon âge, qui a la même passion pour le domaine. Donc, beaucoup d'atomes crochus, mais médecin, donc très complémentaire. Et lui voulait aussi, il s'était mis en sommeil un peu de son activité radiologique et voulait entreprendre. Et donc, on décide de monter une Septo ensemble. Dans les cofondateurs, on a Jean-Michel Malbranque, là toujours dont j'ai parlé plusieurs fois déjà, qui
donc là vous êtes déjà trois
à cette époque. Donc lui, il travaillera pas dedans, mais il est actif dès la fondation de l'entreprise. Et puis on va retrouver Florence, qui était chez GE, elle toujours dans la partie ingénierie et qui était en directrice software, donc spécialiste de logiciels de traitement d'images, cloud et et donc, qui est la CTO rêvée pour le projet.
Ouais. Donc, elle a toutes les connaissances produits et très avancées sur le software et elle s'y connaît du coup en IA à l'époque. Est-ce que vous aviez déjà, vous, des connaissances là-dedans ou est-ce que, tu vas me le dire après, est-ce que vous êtes formé à côté?
Bah, moi, je comprends et je me forme aux mécanismes et aux concepts en organisant le colloque. Et donc, mais jamais je me suis formé au code. Hein. Et donc, dans l'équipe, dans les fondateurs, moi, je représente la partie business, stratégie.
C'est marrant, ça. Un ingé qui... mais parce que dans ta carrière, tu as tellement travaillé là-dedans, ça a tellement de sens.
Et Florence prend le lead technique et Gaspard, le leadership médical. Et tous les trois, on s'engage à temps plein dans l'aventure. On fédère un premier tour de table de financement auprès de proches, Business Angel, Love Money. Donc, on monte la structure en 2018. Très vite, on finance un tour de table de 1 million d'euros pour construire l'équipe. Et là, on a la première brique de l'équipe, là, une petite dizaine de personnes qui nous rejoignent pour monter la plateforme.
C'est quoi les premiers profils ou c'est quoi justement ces premières briques que vous allez chercher et comment vous lancez au tout début, c'est quoi les premières étapes quand on lance, parce que on parle d'une techno, tu vas nous expliquer juste après, qui est quand même assez poussée, donc c'est intéressant de comprendre quelles sont les premières étapes quand on veut avoir un projet aussi ambitieux.
Écoute, les premières étapes, c'est donc la première étape, c'est que tous les trois, on comprend bien le domaine, on comprend l'impact de l'IA, on a plein d'expertise, mais vraiment en data science pure, Florence, elle maîtrisait tous les concepts, mais elle c'est plus une manager, une animatrice d'équipe technologique, mais il nous manquait vraiment une compétence très forte en data science. Et là, il se trouve que Florence se souvient de son ami Roberto qui était à Centrale avec elle et qui avait fait le master très renommé en intelligence artificielle là, qui s'appelle le mathématiques, vision et apprentissage, et qui lui était resté vraiment un recherche algo, intelligence artificielle pour Philips, et qui était depuis 18 ans chez Philips. Et là, le contacte Roberto, et Roberto, il décide de sortir de Philips et il nous rejoint. Et il prend la tête de l'équipe de data science. Donc ça, c'est la première compétence qu'on est allé chercher. On est allé chercher des compétences de développement logiciel. Beaucoup de gens qui avaient travaillé avant aussi avec Florence. Et puis, et on s'est entouré d'équipes de personnes pour nous aider à vendre nos premiers projets ou gérer les partenariats. Parce que très vite, en fait, la démarche fondatrice de Incepto, c'est de se lancer dans la production d'algo, mais de le faire en mode coproduction. Et donc, de signer des contrats avec des clients, donc l'hôpital Marinal Long ou un groupe en Suisse, le groupe 3R, et de signer des contrats pour produire nos premières applications.
C'était justement du coup un des points que je voulais aborder ensuite. On va parler maintenant un petit peu de ce que justement Incepto offre. Qu'est-ce que vous offrez comme solution et quelles sont les deux branches que vous avez? Donc ce modèle décrit comme hybride, qu'est-ce que tu peux nous expliquer sur votre offre?
Assez vite, on se dit qu'en fait, l'imagerie, l'intelligence artificielle en imagerie, ça va avoir un impact hyper large et que le champ applicatif est presque infini. Donc, aucune boîte, quel que soit le financement qu'elle est, ne pourra faire tout seul. Et du coup, on décide de faire une plateforme ouverte et en s'inspirant de ce que fait Netflix, on se dit, on va mêler sur cette plateforme de la distribution de startups partenaires qui ont déjà fait des trucs super bien, qui ont des algos, des applications qui marchent et qui sont pertinentes et qu'il faut mettre dans les mains des médecins. Et sur des sujets qui sont pas encore couverts, on va lancer des productions. Et donc, on se positionne très vite comme ce Netflix de l'imagerie médicale, avec pour but d'accélérer la diffusion et de faciliter l'accès aux services, à ces technologies. Donc, ce double rôle de producteur-distributeur.
Ok. Donc aujourd'hui... Et donc, justement, sur les technos en elles-mêmes et les solutions que vous offrez, est-ce que tu peux un peu élaborer sur à quels besoins vous répondez avec vos solutions et comment vous y prenez?
Alors, aujourd'hui, on a une petite dizaine d'applications sur la plateforme. On va répondre à des thématiques de santé publique importantes, comme par exemple la prise en charge aux urgences, détection, suspicion de fracture, trauma, on va aux urgences, on est accueilli par, on attend souvent, ensuite on fait, on attend pour passer à la radio, ensuite on fait une radio et puis la radio est relue par un urgentiste, elle est rarement relue par un radiologue directement. Et puis on attend, et enfin on a la réponse, etc. Tout ça, c'est un flux qui est pas hyper optimisé. Et donc là, on a une application de lecture des radios de fracture, d'aide au diagnostic. Et donc, dès que la radio est faite, va venir pointer, indiquer s'il y a une fracture ou pas de fracture, avec une performance diagnostique qui est équivalente à un radiologue, et qui une qualité de lecture qui va être supérieure à ce que fait les urgentistes. Et donc, on va à la fois améliorer la qualité de la prise en charge et permettre de raccourcir les temps d'attente aux urgences, les délais d'attente. Donc, ça, c'est un premier exemple. On a le même type d'application dans la thématique des urgences sur les radios de thorax. Donc, 4 millions de radios de thorax, elles sont en fait très, très, très souvent lues en décalé par les services de radio. Et puis, les urgentistes les aident. Et là, on a une appli indienne qui a été entraînée sur plus de 2 millions de radios. Et donc, qui est hyper fiable pour dire si elle est normale ou anormale. Et donc, dans tout le triage, elle va permettre de rassurer très vite l'urgentiste pour libérer un patient quand il est normal et d'appeler le radiologue quand c'est anormal et il va avoir plus de spécificité dans le diagnostic. Donc ça, c'est sur les urgences. Ensuite, on a des applis qui sont super intéressantes dans les dépistages du cancer. dépistage du cancer du sein. Je pense que tu es au courant, il y a le programme de dépistage sur le cancer du sein pour la mammographie. Et donc, chaque femme, à partir de 50 ans, tous les deux ans, va faire un examen de mammographie. Alors, on a une application qui a été entraînée sur 1 million de mammographies et qui a une performance de lecture documentée dans la littérature qui est aussi équivalente à des radiologues experts.
Et donc, j'ai vu ce que vous avez fait pendant l'Octobre Rose, là, c'était sympa.
Ouais,
ce que vous avez communiqué.
Beaucoup de choses sur ce sujet.
Ouais.
Et surtout, cette appli, elle est très complémentaire au radiologue. Pourquoi elle est complémentaire? Parce que dans un dépistage du cancer du sein, pour 1000 examens, il va y avoir 6 cancers. Donc, on passe son temps en tant que radiologue à négativer des examens, à dire qu'il n'y a rien. Par contre, les 6, c'est des aiguilles dans les bottes de foin. Il ne faut pas les louper. Hein. Et donc là où la super forte, c'est que tu as un lecteur à tes côtés qui, pour la majorité des cas, va te dire qu'il n'y a rien. Et il te met un score entre 1 et 10. Et si c'est entre 1 et 8, tu peux passer là, très vite parce que l'incidence de cancer est super faible. Donc, il t'apporte cette réassurance pour te dire qu'il n'y a rien. Et par contre, quand il y a un cas qui a un score de 10, ça veut dire que l'examen est très suspect. Et là, il va y avoir toute la complémentarité entre l'intelligence humaine qui va se nourrir de ce que le logiciel a trouvé, mais il va aussi prendre en compte la discussion avec la patiente, les antériorités, le dossier clinique. Et donc, on va avoir une super spécificité sur le diagnostic. Et donc, ça, c'est une super appli qui démontre la complémentarité homme-machine sur ces nouveaux dispositifs d'intelligence artificielle. Et on a la même type d'application sur le dépistage du cancer du poumon. Donc ça, c'est un examen qui n'est pas encore vraiment très diffusé parce que la preuve de l'impact du dépistage du cancer du poumon par scanner a été faite récemment, mais c'est majeur. Enfin, si tu mets en place des programmes de dépistage, tu augmentes de façon très, très significative l'espérance de vie. Notamment si tu détectes un cancer du poumon quand il est au stade 1, c'est-à-dire quand les nodules ou les lésions sont toutes petites, tu as 80% de chance de survie à 5 ans. Si tu le détectes au stade 4, tu n'as plus que 15%. Donc, c'est majeur. Et par contre, ça va générer beaucoup, beaucoup d'examens supplémentaires. Et donc là, le programme qui permet de détecter les nodules, de les mesurer automatiquement, de le comparer avec l'examen précédent, ben, c'est aussi un super outil pour tous les radiologues. Voilà quelques exemples et ces exemples sur la plateforme Incepto ils sont amenés à là dans les années à venir à s'enrichir, c'est-à-dire il y a 10 applis aujourd'hui, il y en aura 20 dans 18 mois, il y en aura 50 dans 5 ans.
Et du coup ma question c'est dans quelle direction vous allez, est-ce que vous allez garder ce modèle hybride ou est-ce que sur le long terme l'objectif c'est d'avoir que des applications que vous créez ou que des applications que vous hébergez d'une certaine manière?
Tant que ça a un sens, tant qu'on est capable de le porter au niveau animation et au niveau économique, on gardera ce modèle hybride parce qu'il s'éclaire l'un l'autre et le champ est large. Donc, on ne se marche pas sur les pieds les uns et les autres. Quoi. En développant des applis, on n'est pas en train de faire concurrence à des applis qu'on distribue. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'applications. Il y a un champ super large.
Et donc moi j'ai plusieurs questions, notamment donc sur le business model. Comment vous rémunérez sur ces deux canaux différents?
Eh bien écoute, nous on vend des abonnements à ces applications aux hôpitaux et aux cliniques. Donc quand tu t'abonnes par mois, tu payes 1000 euros par mois et tu peux passer tous tes examens de mammographie dans l'application. Donc ça, c'est notre modèle économique côté client. Et après, si c'est une production développée par Incepto, ben, on va garder la totalité des revenus. Bon, Incepto produit jamais seul. Donc, on a des partenaires cliniques à qui on va reverser des royalties.
Ouais.
Et puis si c'est un partenaire startup à qui on a acheté l'application, ben, on prend un markup et on se répartit, on partage le revenu.
Okay.
Donc c'est central. Incepto, c'est vraiment l'ADN de l'équipe, la culture, c'est vraiment la collaboration et le partage. Et ça l'est vraiment aussi dans le modèle économique du projet. Partage de valeur avec les clients, partage de valeur avec les startups avec lesquelles on travaille.
Donc justement, pour parler des clients, est-ce que tu peux nous partager un peu des chiffres, combien vous en avez actuellement, quelle taille, quelle typologie?
Alors, on travaille sur la France et un peu la Suisse,
D'accord.
mais vraiment, donc on a un peu moins de 3 ans et l'objectif, c'était de démontrer que ce modèle a un sens et on s'est lancé un modèle économique sur un territoire qu'on connaît,
Ouais.
maîtrisé en taille, la France. Donc ça, c'est notre
Tu
périmètre. On
m'étonnes.
a une,
18 ans
on
là,
a
18 ans là-dessus. T'as eu le temps de le connaître chez G.
Donc on a à peu près 40 clients
Ok.
de toute typologie. Donc on a des CHU et APHP. On a des gros groupes d'imagerie privée qui ont une présence nationale. On a des gros groupes d'imagerie privée qui sont avec un très fort ancrage, qui sont sur toute une ville comme à Nantes ou à Tours. On a des petits centres d'imagerie en ville. Et en fait, alors on va ou des gros hôpitaux cliniques ESPIC, type l'hôpital américain ou
Ouais, ok.
l'hôpital Marina. Donc on a un peu toute la typologie. Alors tous n'achètent pas forcément les mêmes applications, parce que il y en a qui vont être très intéressés par les applis d'urgence, d'autres qui vont être la radiologie de ville va être très intéressée par tout ce qui est mammo, parce que c'est beaucoup fait dans des centres de proximité. Donc on va moduler les applications, mais aujourd'hui on a
Ouais.
une un peu partout.
C'était ma question du coup, comment vous faites pour avoir autant de clients différents et envisager une forte croissance si vous devez derrière adapter, moduler, comme tu dis, les applications, quel l'objectif à long terme pour grossir?
L'objectif, c'est d'être la plateforme de référence en France sur le sujet de l'imagerie médicale et de l'intelligence artificielle. C'est un petit domaine hein, quand même. Il y a 8 000, 9 000, entre 8 000 et 9 000 radiologues, donc
Ouais.
ils se connaissent tous. Au niveau des hôpitaux, ils se sont beaucoup restructurés par groupement hospitalier de territoire. Et il y en a 160. Des gros groupes d'imagerie privée, il y a des groupes nationaux qui ont émergé. Il y en a 3-4. Et ensuite, il y a, je dirais, 50 gros groupes d'imagerie privée un peu partout en France. Et puis après, il y a les cliniques aussi, les Elsan, Vivalto, enfin, les gros groupes de cliniques. Mais donc, quand tu regardes le marché et que tu le divises par un segment, en fait, tu arrives assez bien à le couvrir sans être une armée, quoi. Et donc, c'est aussi lié à
D'accord.
notre connaissance. Et on est sur des. De toute façon, on est sur un marché qui se crée. Donc, tout le monde n'est pas acheteur. Il y a beaucoup de gens qui observent, qui attendent de voir ce que les early adopteurs disent.
Ouais.
Et donc on est dans cette phase de création de marché, on est à cette phase-là où on passe des early adopteurs au pragmatique.
Ouais.
Dans la vague de l'innovation, il y a les early adopteurs et puis les early adopteurs, ils nous permettent de finir le produit, de s'assurer de mieux comprendre sa valeur, son impact. Et puis après, il y a le tipping point, le point de bascule où ceux qui étaient plutôt sceptiques au départ deviennent des adopteurs aussi,
Mais ouais, ils sont convaincus.
le segment des. Et on est en ce moment à cette phase-là.
Ok, super. Et donc l'objectif, donc tu nous as parlé de la France, mais j'imagine qu'une solution, enfin ce que vous proposez peut également s'exporter, donc la France et la Suisse. Est-ce que vous avez des ambitions outre-Atlantique, par exemple?
On les aura peut-être à très court terme. Le marché n'a pas vraiment démarré encore aux États-Unis.
Ok.
Il faut sans doute de très très gros financements pour y aller. Et on a encore, en fait, on est encore assez jeune, fragile en France
Ouais.
aussi. Peut-être, mais pas, c'est pas très court terme.
D'accord. Ok. Intéressant. Écoute, on arrive sur les questions de la fin. Moi, j'aurais des questions. Donc, tu nous as parlé de ces challenges, de la fragilité. C'est quoi les autres challenges que tu rencontres ou que tu as rencontrés dans ton aventure entrepreneuriale en santé?
Bon, un des challenges, c'est le challenge de chaque entreprise, d'aventure entrepreneuriale. Mais j'ai un ami qui me dit, une idée, ça vaut un produit, ça vaut 10, un modèle économique, ça vaut 100. Et donc, le chemin est super long et toutes les, et le, et les embûches et les, tous les obstacles à surmonter pour arriver au modèle économique qui tourne, qui, sur lequel une entreprise peut se développer, bah, c'est un très très long chemin. Et donc, avoir des idées, c'est finalement assez facile. Commencer à les mettre en œuvre et les réaliser, c'est là qu'est le plus gros défi et le plus gros challenge. Donc, c'est l'idée. Ensuite, un produit. Bah, quand on est ingénieur, on adore faire des produits. Et donc, on parle de son produit, on parle plus complexe, puis il est beau. Mais le produit, s'il ne génère pas, il ne répond pas, il ne résout pas un problème, ou s'il ne répond pas à un besoin qui est générateur de valeur. Et donc, si on ne peut pas mettre un prix, et si les clients n'ont pas plaisir à l'acheter et sont convaincus que quand ils l'achètent, le prix qu'ils payent et la valeur générée par l'investissement est supérieure à ce qu'ils ont mis comme investissement, bah, ça ne marche pas comme modèle. Et donc, c'est aller se confronter à ces modèles de valeur et aller les pousser. Et donc, il faut faire tout ce cycle-là, qui dans la santé, c'est super long. Il y a aussi des enjeux d'obstacles réglementaires. L'appréciation de la valeur, elle est médicale et économique. Et parfois, arriver à bien apprécier les deux ensemble, c'est très difficile. Il va y avoir du subjectif. Pour le médical, il peut y avoir des enjeux de validation clinique par des pairs, de publication. Donc ça rajoute des temps de cycle. Donc ça c'est vraiment les obstacles de l'entrepreneuriat dans le domaine de la santé, c'est de pousser la démarche jusqu'au modèle économique et d'arriver à les trouver.
Super intéressant. Écoute, merci. Je vais te poser ma dernière question avant qu'on se quitte. Selon toi, quel est le conseil que tu donnerais au Antoine qui commence sa carrière chez GE en sortie d'école ? Je te prends de court.
Le conseil, c'est d'aller se pousser, aller en immersion chez les clients, quelle que soit l'industrie dans laquelle on est, mais aller sur le terrain, en immersion chez les clients le plus vite possible. Parce que c'est là qu'on comprend la finalité d'un produit. C'est là qu'on comprend quelle est la finalité de l'usage de ce sur quoi on travaille dans une entreprise. Et donc d'aller se confronter au terrain le plus vite possible, d'aller rencontrer des clients et à partir de ces rencontres, de construire un réseau et des relations humaines qui vont permettre d'avancer.
Bah super. Merci beaucoup à toi, Antoine. Merci pour ton temps et tes conseils. J'espère que ça inspirera d'autres personnes à entreprendre dans la santé.
Absolument, il faut y aller.
J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lui laisser une super note sur ton appli préférée de podcast et à en parler autour de toi. Tu peux également m'envoyer un message sur mon LinkedIn Jean-Baptiste Michel afin de me dire ce que tu en penses. Moi, je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Entreprendre dans la santé.